chapitre 57. Le 23 août 2016. Pour les campeurs, passer le portique de la grille des Eupproctes avant d'aller à la plage était devenu plus compliqué que de passer celui de Tijuana pour un Mexicain souhaitant entrer aux États-Unis. Deux gendarmes jeunes, souriants mais inflexibles, faisaient ouvrir chaque sac de plage, déroulaient chaque serviette, vérifiaient chaque identité, notaient les heures d'entrée et de sortie, tout juste s'ils ne passaient pas au détecteur de métaux les filles bronzées qui patientaient en maillot. Tout ça pour rien, grognaient les plus pressés. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Puisqu'on avait trouvé l'arme du crime, puisqu'on avait coffré le coupable. À la limite, la seule interrogation pour les touristes qui avaient loué 1200 euros la semaine leur bungalow se résumait à qui allait nettoyer les chiottes aujourd'hui, puisque le gardien des balais patientait à la prison de Calvi. Et qui allait embaucher son remplaçant, puisque le patron patientait à la morgue d'Ajaccio. Au cœur du naufrage, derrière l'accueil, le visage ravagé par les larmes, Annika Spinello assurait, rassurait. En toutes les langues de la terre, elle expliquait que, oui, tous les campeurs seraient interrogés. Que non, les tentes ne seraient pas fouillées. Que oui, le camping restait ouvert, que rien ne changeait, qu'ils pouvaient continuer à profiter du sable et du soleil. Que non, il n'y aurait pas aujourd'hui d'activité, ni de plongée, ni de pétanque. Que non, elle n'avait pas dormi. Que oui, merci Marco, elle voulait bien une cigarette, un mouchoir, une boîte entière. Que non, elle ne voulait pas se reposer, aller se coucher, prendre des trucs pour dormir. Que oui, elle voulait rester là comme un capitaine à la barre d'un bateau fantôme, parce que ce camping, c'était la vie de Cervone, son œuvre, son royaume. Et que, lui disparu, elle en était le quartier maître. Que non, les Eupproctes ne fermeraient pas, autant tuer Cervone une seconde fois. Que oui, ma petite, c'est gentil, ça me touche. Valentine posa sur le comptoir de l'accueil la botte de serpolet qu'elle avait cueillie et la carte de condoléances qu'elle avait rédigée.
« J'aimais bien votre mari, » fit l'adolescente. « Même si dans ma famille, pas grand monde n'était de mon avis. On est revenu dès qu'on a appris. »
Annika lâcha un sourire sincère.
« C'était bien, la voile ?»«
Ouais. »
La réponse les témoins.
« Ton papa n'est pas là ?»« Je ne sais pas. »
Annika n'eut pas la force de relancer. Elle s'était à nouveau envolée dans ses pensées, loin, des années plus tôt, quand elle avait renoncé à la glisse, telle une sirène échouée, avant que tout ne tourne en queue de poisson. Seul Cervone avait eu le talent de la recueillir.
« Vous vouliez me voir, Annika ?»
La patronne du camping semblait déjà avoir oublié. Elle fit un effort de concentration.
« Ah oui, excuse-moi, j'ai reçu un message pour toi. Tu dois monter à Arcano. C'est urgent, ta mère t'attend. »
Trois camionnettes de gendarmerie étaient stationnées devant le camping. Mais, un tournant plus loin, on ne croisait plus personne. Le contraste en était saisissant. Comme si les grillons, les criquets, les sauterelles vivaient leur vie en se foutant de cette agitation. Valentine comprenait pourquoi il était si facile de se planquer dans le maquis. Il suffisait d'échapper de quelques mètres aux flics, d'atteindre les buissons, et hop, le tour était joué. Personne n'irait plus jamais vous chercher. Pas même un chien policier. Toutes ces fleurs odorantes semblaient n'avoir poussé que pour protéger la piste des fugitifs. Pour le moment, elle grimpait directement à Arcano par le sentier. Après le virage, où le chemin traversait la route bitumée, elle vit la voiture garée. D'abord, elle ne fit pas le rapprochement, même si le véhicule l'intriguait, lui rappelait un vieux souvenir.
Une image, plutôt.
Sa forme, sa couleur. C'était sûrement la caisse vintage d'un héros d'une série quelconque à la télé. Elle continua de marcher en direction de la route, tout en se demandant ce que maman pouvait bien lui vouloir. « Urgent », avait affirmé Annika Spinello. Elle soupira. Elle en avait sa claque de ses histoires. Arcano, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, sa maman, les fantômes, les morts.
Tilt.
Ça y est, elle se souvenait. La voiture. Elle l'avait vue sur des vieilles photos. Maman les sortait parfois à la maison.
Une...
Valentine s'énerva toute seule. Elle avait le nom au bout de la langue. Comment s'appelait cette foutue voiture rouge et noire? Elle portait un nom bizarre, un truc un peu latino. Elle s'approcha. Une vieille femme se tenait assise, seule, sur le fauteuil passager.
Valentine ne l'avait jamais vu. Mais lorsque son regard s'arrêta sur elle, un frisson parcourut l'adolescente. Elle venait de croiser un fantôme. Elle essaya de chasser cette impression insupportable. Cette vieille femme lui ressemblait. Un instant, Valentine avait cru se voir dans un miroir vieillissant, se reconnaître, elle, mais dans 60 ans. Débile. Allez, continuez de grimper. Et on avait encore pour 200 mètres de dénivelé avant de se poser les fesses sous le chêne d'Arcanou. Malgré elle, elle tourna encore la tête vers la voiture rouge et croisa à nouveau le regard de la vieille. Elle semblait l'implorer, la supplier. Ses yeux cherchaient à exprimer un message que ses lèvres ne pouvaient pas prononcer. Il n'y avait personne autour d'eux. Seulement les stridulations des insectes du soir. Le silence lui apparut soudain inquiétant. Merde, siffla Valentine pour se rassurer. C'était quoi le nom de cette bagnole? Celle de l'accident avec laquelle maman nous gaffe tout le temps. Une Fuego, fit la voix dans son dos.